Généralement, c'est un rite de passage, parce qu'on paraît devant ses pères.
L'efficacité proprement magique du rituel, la leçon inaugurale.
Il y a là une tradition qui remonte au XVIe siècle.
Moi, je me souviens de la leçon inaugurale de Raymond Aron. Bah, il était vert de peur.
Une mode insensée s'est emparée du bergsonisme et on faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma.
Les leçons inaugurales du Collège de France, coordination, Meryl Moneghetti.
S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche.
Lévi-Strauss, le jour de sa leçon inaugurale, debout dans le fond contre la porte de droite, il y avait Alain Cuny, vous voyez, l'acteur Alain Cuny. Et je me suis dit, c'est quand même extraordinaire, il n'y a pas que nous.
Comme chaque jour de cet été, par le Collège de France et France Culture pour une nouvelle leçon inaugurale, cet état des lieux d'une recherche en cours est aussi le reflet des mutations de notre monde. Aujourd'hui, nous revenons sur les singulières métamorphoses théâtrales, celles qui ont touché l'universitaire passionné de traduction et metteur en scène, Jacques Nitsché. Des années 1970 à aujourd'hui, il égrène les spectacles marquants de sa génération pour mieux affirmer la liberté du théâtre, d'Antoine Vitesse à Aurélien Bory, de Romeo Castellucci à sa propre mise en scène d'un opéra de poche de Cocteau. Il cite Zola, s'affirmant au-delà des querelles, des modes et des chapelles. Chaque fois qu'on voudra vous enfermer dans un code en déclarant « ceci est du théâtre, ceci n'est pas du théâtre », répondez carrément « le théâtre n'existe pas, il y a des théâtres et je cherche le mien ». Jacques Nitsché, qui a multiplié les expériences diverses de l'aquarium implanté à la cartoucherie de Vincennes, au théâtre des 13 vents à Montpellier entre 1986 et 1998, du théâtre national de Toulouse jusqu'en 2007, à la compagnie L'Inattendu, convoque pour nous un théâtre bâtard, fait de briques et de brocs, flirtant avec d'autres formes, la danse, d'ailleurs on croise la figure de Pina Bausch, le cirque, le spectacle de marionnettes, la mise en scène qui joue avec le texte de l'auteur, dépouillant celui-là des didascalies pour mieux faire ressortir la satire politique. Jacques Nitsché note que la scène s'affranchit de la littérature. À côté des poètes d'art dramatique, qui n'ont rien perdu de leur importance et de leur rôle, sont apparus les poètes de l'énergie scénique. À propos d'Inferno de Castellucci, il demande, fasciné, est-ce un poème ou du cirque ? Jacques Nitsché, qui se définit comme un metteur en scène interprète, se dit partisan du théâtre qui se fait comme si l'on était en vacances, détendu. L'état de tension n'a jamais rien donné de bon. Vitesse parlait de miracle. Il s'agit de divertir, divertir au sens propre du terme. Se divertir pour mieux voir, mieux entendre, mieux sentir. On oublie trop souvent que la mission première du théâtre est là. Serein, Jacques Nitsché rappelle que le théâtre qui ne cesse d'échapper à son identité depuis la nuit des temps, entre des formes différentes, se joue le plaisir de l'alternance. Tout lui semble possible du moment qu'on ouvre des nouvelles voies. Il y a 40 ans, tous ces spectacles étaient inimaginables. Si tu peux l'imaginer, tu peux le faire, dit le sculpteur Calder. Pour inaugurer la chaire annuelle de création artistique, Jacques Nitsché peut donc intituler sa leçon « Le théâtre n'existe pas ». Et nous gagnons le grand amphithéâtre du Collège de France le 11 mars 2010.
Si pour les petits-enfants, celui qui enseigne est le maître d'école, pour les grands, c'est le poète. Je place en exergue ces deux vers d'Aristophane dans la traduction vivifiante de Victor-Henri de Bidour. J'ai fait mes premiers pas de metteur en scène en 1965 en montant les grenouilles que venait de traduire mon cher professeur de Cagnes. Un poète, un traducteur, et tous mes amis du théâtre universitaire de l'Aquarium m'ont ouvert les portes d'un monde qui est désormais le mien. J'ai eu le grand bonheur d'être nommé à l'université de Paris 8, Vincennes, perdu dans les bois, pas très éloigné de la cartoucherie, qui s'inventait en même temps, et pendant 15 ans passionnants, je suis allé de l'une à l'autre. Je remercie de tout cœur l'Assemblée des professeurs de m'avoir accordé cette chance inattendue de retrouver le plaisir d'enseigner, en me donnant 9 fois la parole au Collège de France. Cette si belle marque de confiance me touche intensément et j'exprime à chacune, à chacun d'entre vous, toute ma reconnaissance. Permettez-moi de saluer, vous l'avez fait aussi, monsieur l'illustrateur, fraternellement, celui qui m'a présenté à votre assemblée, mon vieil ami Michel Zinck. Dans tout collège, il y a une cour de récréation. Et peut-être dans chaque cour, un enfant qui crie de joie, comme ce gamin des rues de Montevideo, « Je ne veux jamais mourir, car je veux jouer toujours. » C'est ce cri que nous lance le théâtre, même dans les plus cruelles tragédies, puisqu'à la fin, les cadavres ressuscitent pour venir saluer. Y a-t-il un lien entre la récréation et la création artistique? Sans aucun doute. Mais dès qu'il s'agit d'en parler, le sérieux nous guette toujours. Quelle est belle la devise de la comédie, « Docet ridendo ». Elle enseigne en faisant rire. Sur ce terrain, je suis battu d'avance. En tout cas, je me promets de jouer franc jeu. Craignant d'être très vite démasqué, je préfère passer directement aux aveux. Après 40 ans d'expérience qui ont pris les noms de Théâtre de l'Aquarium, Théâtre des 13 Vents, Théâtre National de Toulouse et désormais Compagnie d'Inattendus, je croyais connaître quelques règles du théâtre. Mais voilà que j'approche du Collège de France et la sentinelle qui veille jour et nuit devant votre porte, Claude Bernard, m'arrête au passage. C'est ce que nous pensons déjà connaître qui nous empêche peut-être d'apprendre. Au fond, en m'invitant à occuper cette chaire de création artistique, vous m'incitez plus que jamais à apprendre, voire à réapprendre ce que je pensais savoir. Dans l'espace béant entre deux chorégraphies, Pina Bausch elle-même s'interroge, et avec quelle humilité. « Je crois, dit-elle, qu'il faut d'abord réapprendre à danser. » Ou qu'il faut d'abord réapprendre quelque chose d'autre. Ensuite, on peut peut-être recommencer à danser. Pour réapprendre quelque chose d'autre, paradoxalement, j'aimerais me retourner vers ce que je devrais connaître le mieux, le théâtre de mon temps, les spectacles les plus marquants de ma génération. Nous avons assisté depuis une quarantaine d'années à tant de singulières métamorphoses théâtrales. Elles ont bousculé et renversé hardiment les traditions de l'art dramatique. Comment s'expliquent de telles transformations? De quelles diverses façons se sont inventées ces formes insoupçonnées, ces visions inconnues? Luca Ronconi, Ariane Mnouchkine, Peter Schumann, Robert Wilson, François Tanguy, Tadeusz Kantor, Denis Marlowe, Valère Novarina, Pina Bausch et tant d'autres m'ont arraché à moi-même, à mes certitudes, m'ont enthousiasmé, ébranlé, ému, éberlué, irrité parfois. Comment s'étonner qu'au milieu de tant de modèles divergents, le public parfois s'égare? Que voit-il? Est-ce encore du théâtre? Il arrive qu'un spectacle fasse événement, en divisant le public et la critique. Un camp attaque le réalisateur au nom de l'art assassiné, l'autre l'acclame au nom de l'art régénéré. Zola a donné, il y a plus d'un siècle, un conseil aux artistes pris dans les querelles du moment. Chaque fois qu'on voudra vous enfermer dans un code en déclarant « Ceci est du théâtre. Ceci n'est pas du théâtre. » Répondez carrément « Le théâtre n'existe pas. Il y a des théâtres et je cherche le mien. De cette pratique, en effet, ne surgissent que des formes singulières, dissemblables, passagères. Et Zola insiste avec fermeté, il n'y a pas d'absolu, jamais, dans aucun art. S'il y a un théâtre, c'est qu'une mode l'a créé hier et qu'une mode l'emportera demain. Les affirmations de Zola n'ont jamais visé aussi juste qu'aujourd'hui. En réponse à la bousculade et à la fragmentation d'un monde échappant à nos repères, les spectacles n'ont cessé de se multiplier et de se diversifier. Ils tentent de faire écho à nos douloureuses impressions de désorientation et d'incertitude. Les artistes, chacun à sa manière, essaient de réagir par d'autres pratiques, d'autres alliances, d'autres modes de production. À côté du grand théâtre, enfermé dans sa légitimité, sont apparues dès les années 70 des formes bâtardes, souvent réalisées en peu de temps et sans trop d'argent. On a vu ainsi advenir un grand nombre de propositions inhabituelles qui voulaient marquer leur différence face aux productions des institutions, mais face aussi au conformisme répétitif des chaînes télévisuelles. En affirmant leur originalité, ces essais souvent appelés « petites formes » ont montré d'autres façons d'inventer le théâtre, les théâtres. Elles méritent d'être mieux reconnues. C'est pourquoi je veux en évoquer quelques-unes au tout début de cette leçon. J'espère qu'elles vous surprendront. En relisant un programme de l'atelier théâtral d'Ivry daté de février 1979, je redécouvre avec émotion le désir illimité d'Antoine Vitez. Faire du théâtre sans cesse, comme une activité perpétuelle et continue. Ne pas se contenter de donner de belles comédies et de belles tragédies, mais habiliter sur la scène le genre de l'essai ou celui de la sottie, celui du pamphlet et celui des autres petites formes en général. Inventer des variétés d'un genre nouveau, faire les clowns, fonder un répertoire pour le théâtre de marionnettes, créer des opéras, mettre en scène la vie courante et le grotesque politique contemporain. Quand Vitez veut faire entendre en 1979 à l'atelier théâtral d'Ivry ses fragments sur la cruauté grotesque de l'histoire contemporaine, il lui suffit de s'emparer d'un ancien numéro du Nouvel Observateur qui avait publié la sténographie du dialogue échangé entre Mao Zedong et Georges Pompidou à Pékin en 1973. Les deux présidents sont en quelque sorte les auteurs du texte, ce texte que Vitez confie à ses élèves. Ces deux jeunes comédiens ne ressemblent en rien au grand timonier et au successeur du général de Gaulle. Tout le plaisir du jeu se trouve là. Le critique Guy Dumur le confirme, pour nous, spectateurs, l'effort involontaire que nous faisons pour retrouver les personnages connus derrière ces visages de jeunes acteurs engendre la dimension ironique, critique, voulue par Vitez. Sans faire aucun effort pour se rapprocher de leur modèle, les interprètes nous demandent simplement d'y croire. Assis sur une chaise, ils ne sont ni maquillés ni costumés, et chacun invente librement son président. Ils font entendre du texte une sorte de version doublée. Les mimiques, les intonations, les gestes provoquent un double jeu avec les mots qui se mettent à dire ce qu'ils ne croyaient pas si bien dire. L'imitation montre une fois de plus son extraordinaire pouvoir d'élucidation et de subversion. Toutes les dictatures, nous le savons, musellent les théâtres par peur des éclats de rire. Vitez invite malignement les spectateurs à venir écouter ce rendez-vous avec l'histoire. Mao, l'expédition d'Égypte où Napoléon a entraîné 30 000 hommes a été une erreur. Pompidou, Napoléon a cédé à l'attrait de l'Orient. C'était aussi le rêve d'Alexandre. Mao, Alexandre n'était pas un très grand personnage. Il voulait aller jusqu'à la Perse, Mais il est mort auparavant. Il est mort jeune. Pompidou, il avait 33 ans. Mao, Napoléon est mort plus vieux. Pompidou, il avait 52 ans. Mao, est-il mort d'un cancer ou d'un ulcère ? Pompidou, s'il s'agit d'un ulcère, c'était un mauvais ulcère. Les partisans de Napoléon, après sa mort, ont dit que les Anglais l'avaient empoisonné. Un vieillard fatigué, vaniteux, bardé de certitudes, bavarde avec un malade qui essaie de faire bonne figure. Ils échangent des banalités, tandis que la mort entre déjà en scène. En 1979, nous en sommes conscients en écoutant ce qui est déjà devenu un dialogue des morts. À la grande scène de l'histoire, Vitesse oppose cette petite forme ironique et grotesque. Elle donne de petits coups d'épingle dans le mythe de Mao, gonflé comme une gigantesque baudruche. Les acteurs de ce cabaret politique, de cette sottise moderne, s'en donnent à cœur joie avec le public. On rit comme un film de Laurel et Hardy, note le critique. Cette magnifique leçon de liberté, cette belle insolence que nous donne Antoine Vitesse, n'est pas si fréquente. Elle peut donner du courage si d'aventure un jour se lève le désir de reprendre le flambeau d'Aristophane. Voici encore un spectacle court et léger qui habite son temps d'une manière que je trouve très attachante. Imaginez deux amis qui, à 45 ans passés, ont le désir de se retrouver sur scène. Ce sont deux citoyens romains, Amadeo Fago et Fabrizio Beggiato. Le premier anime un petit théâtre dans le quartier de Flaminio, à Rome. L'autre est docteur en philologie romane, professeur à l'Université de Rome. Ils ont écrit ensemble le récit de la première partie de leur vie. Scolarité, année d'apprentissage, lutte étudiante, service militaire, entrée dans la vie active, mariage, divorce. C'est la chronique douce-amère, plus amère que douce, de ce qu'ils sont devenus au fil du temps, et ils ont envie de le raconter à des amis inconnus, les spectateurs. Ils se sont répartis des tâches. Amadeo parle au nom des deux. Sa confidence se déroule très simplement avec ses incises, ses reprises, ses surprises, sur un rythme qui fait entendre le bruit du temps. Fabrizio ne dit rien, mais il s'active calmement. Il prépare avec soin un risotto. Risotto, c'est le titre de ce spectacle, joué en français et cuisiné en italien. Un risotto demande un temps de préparation de 45 minutes. C'est le temps que le cuisinier laisse à son ami pour raconter 35 années de complicité, 35 années dont certaines étaient de plomb lors d'une Italie déchirée au bord de la guerre civile. Le narrateur, quelquefois, projette des images de films que les deux jeunes amateurs avaient tournés incognito dans leur lycée, dans leur université occupée, dans un quartier le jour d'une manifestation. Ainsi reviennent vers nous les souvenirs, leurs souvenirs, par la parole, le cinéma et l'odeur du risotto qui se répand déjà dans la salle. 35 ans de déchirement, de lutte, de déception, et 45 minutes pour évoquer leur vraie consolation en ces temps troublés, la joie de se retrouver tous les deux de temps à autre autour d'un plat familier, d'une recette d'une autre Italie qui, elle, ne déçoit jamais. Au fond, comme le théâtre, le risotto n'existe pas. Nous n'en connaissons que des formes particulières, avec d'infinies variantes. Il suffit de savoir jouer avec les ingrédients, avec un seul ou avec les combinaisons les plus téméraires. À la fin des 45 minutes, après les applaudissements, le risotto est partagé entre les spectateurs, qui ne se font pas prier pour manger la moitié du spectacle. Amado et Fabrizio ont inventé un nouvel usage de la représentation, la confidence de deux citoyens qui viennent parler de leur pays à d'autres citoyens, un simple et fraternel passe-temps pour faire face à la cruauté du temps, un art de vivre en amitié simplement humain. Le risotto, pourvu que tu y mettes un peu d'amour, il vient toujours bien. la rencontre de Georges Pompidou avec Mao Zedong, ainsi que Risotto, nous montrent comment de nouvelles formes s'éloignent de l'idée traditionnelle que nous nous faisons du théâtre. Ces deux propositions se délivrent des fondements de l'art dramatique. L'imitation d'une fable, l'affrontement de personnages, le développement d'une action. Tout cela est bel et bien disparu, et pourtant, nous continuons avec raison à y voir du théâtre.
Vous écoutez France Culture, la leçon inaugurale de Jacques Niché, « Le théâtre n'existe pas » en 2010 au Collège de France.
Je vous propose maintenant d'observer deux manières de jouer avec les éléments du cirque, l'acrobatie ou l'entrée clownesque. Deux manières de rendre théâtrales ces formes circassiennes. Aurélien Bory, directeur artistique de la compagnie 111, a imaginé un objet théâtral non identifié se situant à la frontière du cirque, de la danse et du théâtre. Il s'est entouré de trois complices qui sont, comme lui, jongleurs, acrobates et musiciens. En fait, ils veulent s'affirmer comme des acteurs complets en se servant de leur métier du cirque. Leur modèle reste Buster Keaton, un enfant de la balle. Dans ce spectacle intitulé « Plan B », les acteurs vont affronter les lois de la gravité qui diffèrent du tout au tout selon la position de la scène. Une vaste forme géométrique, un plan, incliné à 30 degrés, modulable et transformable. Quatre jeunes cadres en costume et cravate sombre glissent lentement et librement les uns après les autres, couchés le long de la pente. Chaque fois qu'ils arrivent au sol, ils repartent derrière le plan, remontent au sommet et se remettent à glisser un peu plus vite. Sont projetés en même temps les chiffres de cotation en bourse. Le long du plan qui leur est imposé, les hommes continuent à glisser, de plus en plus serrés, de plus en plus coincés, les uns contre les autres. Si nous y étions réellement au cirque, je suppose que nos acrobates porteraient des maillots de corps lumineux et pailletés, qu'ils feraient tout pour réaliser une prouesse, qu'ils chercheraient à faire admirer leur virtuosité. Nous nous trouvons au contraire devant une situation d'anonymat, de grisaille, de conformisme. On ne nous invite pas à admirer, mais à regarder ça. Des adultes qui glissent comme des paquets, tous interchangeables, sur fond de cotation boursière. Nous découvrons une sorte de quotidien mystérieux où l'humour n'est jamais absent. Nous assistons en fait à une expérience de théâtre minimaliste, où les corps jouent comme des formes abstraites. Cet art visuel se passe aisément de parole. La recherche pour inventer des fragments de jeu et trouver des enchaînements de mouvements a demandé trois fois plus de temps que celui qui est habituellement accordé à une production. Toute une équipe a travaillé pendant 6 mois et elle ne conservera au montage final que la moitié de ce qu'elle a trouvé. Le spectacle garde cependant l'apparence de légèreté et de rapidité d'une petite forme. Il dissimule avec élégance toute la peine prise pendant de très longues répétitions. J'ai été particulièrement ébloui par un moment magique vers la fin du spectacle. Au sol, deux êtres rampent les uns vers les autres, s'approchent, se repoussent, s'agrippent. Ils ont des roulettes sous leurs chaussures qui leur permettent de glisser et de tourner sur eux-mêmes. Cette chorégraphie horizontale est filmée en direct, sans aucun trucage. Et là, le film apparaît sur un écran vertical. Miracle. Au lieu de voir comme en bas, ces deux corps maladroits gigotants et tournoyants, nous découvrons là-haut, sur l'écran, deux guerriers, adeptes du kung-fu, se livrant à un combat héroïque. Ils volent à travers une nuit étoilée, tels de vertigineux voltigeurs. On se croirait devant un film de Georges Méliès ou de Bruce Lee. Nous sommes émerveillés devant ce rêve réalisé, même si ce n'est qu'une illusion avouée. Même si nous pouvons regarder la lourdeur et la gaucherie des silhouettes inférieures, qui sont pourtant bel et bien à l'origine de cette image sublime. Ce moment merveilleux m'évoquait l'essai de Kleist sur le théâtre des marionnettes. La grâce n'est jamais loin de la plus lourde des pesanteurs. Est-ce du cirque, de la pantomime, de la danse, de la prestidigitation, ou du théâtre qui se sert de tous ces genres pour le seul plaisir du jeu, de la surprise, de la beauté? Voilà une forme pure qui échappe à la reproduction du réel. Ce jeu formel nous fait rêver, nous fait rire. S'affirme un langage physique et poétique, indisciplinaire, qui prend son bien dans des disciplines différentes sans appartenir à aucune. La création d'un poème scénique, comme pour les plantes hybrides, passe par d'étranges greffes. L'autre exemple part d'une très ancienne entrée clownesque intitulée « Les assiettes ». Elle va prendre une tournure imprévue. En 1974, sur la scène du Petit Odéon, vide de tout décor, pendant une heure environ, Pierre Bilan et Philippe Gollier s'appliquent à casser 200 assiettes presque sans un mot. Le cassage leur sert de langage. Chacun mène de son côté sa principale occupation qui tourne à l'obsession. La vaisselle se brise facilement. Il suffit de s'y mettre en variant les effets, en renouvelant les séquences. Quand nous voyons où ils veulent en venir et que l'ennui risque de nous guetter, ils retardent très habilement le passage à l'acte, louvoient, détournent notre attention, nous prennent en traître, et puis crac, c'est cassé. Aux éclats d'assiettes, nous ne pouvons répondre que par des éclats de rire. Même si ces massacreurs portent une boule rouge au bout du nez, ils débordent le numéro traditionnel de clown par l'excès, par l'étirement dans le temps. Nous ne savons plus très bien si nous sommes au cabaret, au cirque, au théâtre, dans une école de mime. Ils poussent à bout leur expérience. Les piles d'assiettes ont beau proliférer, ils ne se laissent pas abattre. La situation surréaliste se croise avec le burlesque du cinéma muet. On rit à n'en plus finir, on reste fasciné par cet acte gratuit, irrationnel, étrange. En fait, les deux excentriques n'ont nul besoin d'un nez rouge. Leur folie suffit. Leur désir de faire table rase emporte la clownerie au-delà d'elle-même. La fantaisie se bat contre des objets rédémèdes, des images répétitives, des clichés ordinaires. L'imagination ne supporte plus le réel. Elle le met en miettes. La folle du logis fait le ménage. Là encore, selon le vœu d'Artaud, on ne joue plus, on agit. On passe à l'acte, réellement. On assiste à la genèse d'un chaos. Chaque artiste, à sa façon, ressemble à un casseur d'assiettes. Aurélien Bory est le metteur en scène du plan B, Phil Soltanoff. Pierre Bilan et Philippe Gollier jouent sur une scène qui s'est totalement affranchie de la littérature. Ils semblent avoir entendu l'appel de Craig, d'Appia, d'Artaud et cherchent un langage purement scénique. À côté des poètes de l'art dramatique qui n'ont rien perdu de leur importance et de leur rôle, sont apparus aussi les poètes de l'énergie scénique. Chacun se forge une expérience différente, cherche une voie originale, sans plus suivre les traditions de l'art dramatique. Il cherche, tout en prenant bien garde de suivre le conseil d'un vieux rabbin de Bratislava. Surtout, ne demande pas ton chemin à quelqu'un qui le connaîtrait, car tu pourrais t'égarer. En observant ces quatre petites formes, j'ai voulu attirer votre attention sur tous les désirs artistiques qui entraînent dans leur élan des changements décisifs. Le désir d'habiter le temps ou de regarder en face l'histoire du siècle. Le désir de partir de formes anciennes pour les déborder et les faire dériver. Le désir d'arracher le théâtre à la littérature pour trouver le langage physique de la scène. Le désir d'agir plutôt que de jouer. Le désir d'être de mèche avec l'inconnu en expérimentant des techniques qui peuvent faire surgir des fantasmagories. Tous ces désirs, qui souvent se rejoignent et se complètent, prennent chaque fois corps dans un projet unique et irremplaçable qui ne sera jamais répété. Ces essais, ces expérimentations empêchent l'entreprise théâtrale de se clore sur elle-même, de se replier sur ce qu'elle connaît déjà. Mais à l'intérieur même des programmations traditionnelles de pièces du répertoire peuvent surgir des pratiques inattendues qui modifient l'art dramatique lui-même. Habituellement, au cours des répétitions, le metteur en scène orthodoxe souhaite accorder ou légèrement désunir l'écriture d'une pièce et celle du spectacle. À cette fin, le réalisateur s'apparente à un traducteur. Pour Antoine Vitez, le metteur en scène est le comble du traducteur. En effet, il ne traduit pas avec des mots, mais avec des hiéroglyphes, le corps de l'acteur, un élément du décor, un costume, un accessoire, un effet lumineux, peuvent faire signe et sens surgissant pour souligner, nuancer ou contredire la réplique ou la scène. Mais d'autres artistes, hétérodoxes, au moment de partir d'une pièce du répertoire, préfèrent contourner l'art dramatique. Ils veulent déstabiliser l'équilibre traditionnellement recherché entre le texte et sa représentation. Pour éclairer mon propos, je vais vous donner deux exemples. Dans le premier cas, les acteurs s'amusent à surévaluer le texte en diminuant d'autant la part de la représentation. Jouer le moins possible ce que demande l'auteur dans ses didascalies peut en effet transformer radicalement l'art de la narration théâtrale. Je me souviendrai toujours de l'étonnante prestation du groupe flamand Tejestan aux prises avec une œuvre difficile, une œuvre d'Ibsen, Un ennemi du peuple. Les cinq acteurs respectent scrupuleusement l'ensemble du texte, y compris toutes les didascalies. Ils disent en scène, elles sont longues et nombreuses. Mais ils se soucient comme d'une guigne d'entrer, de sortir, de se déplacer, de s'asseoir dans un fauteuil. La scène est complètement vide. Ils se mettent au proscenium. Une rangée d'acteurs fait face aux rangées de spectateurs. Et ils échangent leurs répliques entre eux, en se regardant entre eux, ou bien en s'adressant directement à la salle. La quantité de rôles dans cette pièce dépasse et de loin le nombre des interprètes. Ils ne sont que cinq. Peu importe. Dès qu'un nouveau personnage entre en scène, un comédien s'empresse d'annoncer le nom du nouveau venu et il dit aussitôt la réplique. Il vient en fait de prendre le rôle qui s'ajoute à tous les autres qu'il a déjà pris en charge. Ainsi, chacun se fait le porte-parole de plusieurs personnages, sans jamais modifier sa voix pour marquer une différence de sexe, d'âge ou de classe sociale. Ces comédiens ne jouent plus tout à fait la comédie. Ces acteurs n'agissent pas, ce sont les répliques qui semblent jouer entre elles. Au spectateur de faire un effort d'imagination pour reconstituer la représentation absente. Au public, d'apporter la part manquante de théâtre qui flotte dans le vide. Nous ne pouvons qu'éclater de rire devant l'inconvenance de la situation. L'humour ravageur des acteurs, associé à une certaine nonchalance, fait mouche. D'autant plus que leur fort accent flamand et leur maladresse dans l'élocution française renforcent l'étrange dolorie du phénomène. Paradoxalement, cette explosion des codes de jeu naturalistes fait place nette au texte. On entend les lois secrètes d'une société corrompue par l'argent, ce qui est le thème profond d'Ibsen. Avec des airs de ne pas y toucher, les comédiens laissent jouer le langage des affaires, et de la politique, sous-entendu, chantage, manipulation, trafic d'argent. Cette corruption se met d'autant plus dans l'évidence qu'elle n'est pas noyée par des signes. Cet exploit langagier rend à Ibsen toute sa virulence et son humour noir. La vérité de la pièce surgit du retrait de la représentation. Parfois, au contraire, c'est le retrait du texte, c'est sur le retrait du texte que se construit la représentation. Le réalisateur se nourrit d'une œuvre qui l'influence profondément. Mais à l'heure du spectacle, la source originale, le texte du poème, n'apparaît pas directement, sinon sous forme de citations éparses. En 2008, Romeo Castellucci propose, dans la cour du Palais des Papes, Inferno, spectacle librement inspiré de la Divine Comédie de Dante. Librement inspiré. Castellucci affirme clairement qu'il n'a aucune intention d'adapter ce chef-d'œuvre ni d'en donner une traduction. Il refuse avec véhémence de se transformer en traducteur, en sémiologue, dit-il avec mépris. Il rejette le signe qui, dit-il, ne marque pas. Il préfère se perdre lui-même dans l'obscurité d'une forêt, comme Dante au début de son poème. Il veut partir de ses ténèbres pour marcher vers l'inconnu. C'est là, fait-il remarquer, le point de départ de toute œuvre d'art. Avant de s'engager dans une direction, il s'interroge sur le mot « enfer ». Où est l'enfer aujourd'hui ? Où est-il chaque jour pour moi, pour toi, ce mot ? Il espère plonger dans l'imaginaire que le mot « enfer » dicte à la scène. Il attend, il espère une inspiration. Il espère et il attend des images inattendues. Il insiste sur ce désir d'égarement. Se laisser dépasser pour moi est une forme de garantie. Inferno commence. Un homme entre en scène. Je m'appelle Romeo Castellucci. Accompagné par leur maître, des chiens-loups le rejoignent et aboient de plus en plus fort. Soudain, trois bêtes s'échappent et agressent l'homme. Il a beau porter un costume de protection, l'effet de terreur reste le même. Les chiens ne jouent pas, ils agissent. Ils ne traduisent pas un signe de violence, ils mordent réellement. Le cauchemar se poursuit jusqu'au coup de sifflet du maître qui rappelle ses molosses. On ne peut pas voir cette scène sans entendre la voix d'Artaud. De même que nos rêves agissent sur nous et que la réalité agit sur nos rêves, nous pensons qu'on peut identifier les images de la poésie à un rêve qui sera efficace dans la mesure où il sera jeté avec la violence qu'il faut. Et le public croira aux rêves du théâtre, à condition qu'il les prenne pour des rêves et non pas pour le calque de la réalité. À condition qu'il lui permette de libérer en lui cette liberté magique du songe qu'il ne peut reconnaître qu'empreinte de terreur et de cruauté. Tout de suite après cette première scène, un grimpeur s'attaque à la façade du Palais des Papes. Il grimpe, presque nu, avec ses mains et ses pieds collés à la pierre. L'exploit semble impossible. Même si pour sa sécurité il est relié à une corde, l'homme ne joue pas, il joue sa vie. Sa présence réelle se trouve à la merci d'une rafale de vent, d'un dérapage dans le vide, d'une défaillance technique. Comme au cirque, le public retient son souffle. Si un accident survient, on ne parlera plus d'illusion. Le philosophe Daniel Bougnou nous le précise bien, schématiquement, le théâtre dispense des signes, le spectacle dépense des corps. Au cirque, dans un spectacle sportif, ou a fortiori aux arènes, tout n'est pas sémiotique. Les taureaux en savent quelque chose. Le grimpeur agit comme dans un rêve. Il ne reproduit pas une réalité. Par son ascension réelle, il permet une nouvelle fois aux spectateurs de libérer en eux cette liberté magique du songe. Au fond, Inferno, est-il un poème ou du cirque ? Ne peut-il pas exister un poème de l'énergie scénique où se retrouveraient et se croiseraient des présences agissantes, d'hommes ou de bêtes, des effets sonores, de la musique, des jeux de lumière répartis en un instant contrasté, du texte, des phrases parfois incompréhensibles, des moments proches du cirque ou du sport. Avec Inferno, cette forme inattendue a pris corps. Le public ressent une vive émotion devant ce spectacle fragmenté, parfois haché, qui se présente comme une fresque aux innombrables figures. Une centaine de personnes évoquent les morts des enfers, se couchant, se levant, mourant à nouveau, dans une chorégraphie envoûtante. Nous faisons un voyage d'exploration dans les enfers contemporains où apparaissent voitures et télévisions. Des actions et des images fulgurantes nous saisissent, laissant au second plan le texte. 60 ans séparent Jean Villard et Romeo Castellucci. 60 ans qui montrent l'étonnant déplacement des formes théâtrales dans cette même cour d'honneur qui a accueilli tant de chefs-d'œuvre du répertoire. Rien n'est immuable. L'art dramatique n'est ni menacé ni remplacé par la poésie de l'énergie scénique. Entre des formes différentes se joue le plaisir de l'alternance. Le temps fera ensuite son tri, ne nous en préoccupons pas, toute forme théâtrale se conjugue au présent.
Le Collège de France et France Culture vous présente le metteur en scène Jacques Nicher, Le théâtre n'existe pas.
Le souci de la plus grande exactitude possible dans l'interprétation d'un texte peut créer de l'inattendu, entraîner de nouvelles formes qui n'étaient pas du tout prévues par l'auteur. À mes yeux, la vraie originalité commence toujours par une fidélité scrupuleuse envers la version originale d'une œuvre. Je suis un simple metteur en scène, cela suffit à ma douleur et à mon bonheur. Je ne suis pas un créateur, mais un interprète, comme peuvent l'être un musicien, un acteur, un traducteur. Mais ce souci d'interprétation n'empêche pas de susciter une métamorphose théâtrale née du travail de répétition. En 1969, j'ai eu la chance de pouvoir séjourner quelque temps à Osaka et d'assister à des représentations de Bunraku. Le théâtre de marionnettes de grande tradition m'a enthousiasmé. Deux arts se juxtaposent, se croisent, tout en restant distincts l'un de l'autre. L'art de la manipulation de poupées de haute taille, tenues par deux ou trois montreurs voilés de noir, et l'art du récitatif, assuré par un conteur, accompagné par un joueur de chamisène, une guitare très longue à trois cordes. Le conteur et le joueur de chamisène sont placés à l'écart du côté court. Si je les regarde, je ne vois plus les marionnettes. Si je me tourne vers la scène, je ne vois plus le récitant. En face de moi, une image silencieuse. Sur un côté excentré, le récitatif et la musique. La narration circule entre ces deux pôles. C'est une parole qui agit, selon Claudel. D'un côté, une voix qui fait toutes les voix, celle de la fille en larmes, celle de la mère effrayée, celle du père furieux. Et de l'autre, ces marionnettes, réalistes, mais muettes, déjà morte, et derrière elle se tient la mort et elle les guide, pour reprendre la formule si juste d'Heiner Müller. Je revois cette scène où deux jeunes amoureux, séparés par leur clan, parviennent à se retrouver dans un parc et décident de mourir ensemble. Au moment même où ils vont se donner le coup mortel, les montreurs semblent se détourner de leur poupée, s'en écarter par pudeur, comme si les figures du destin laissaient place à un geste volontaire. Bien des années après, je me suis souvenu du Bunraku pour trouver le meilleur moyen de réaliser une petite pièce anamite de Jean Cocteau. un opéra de poche qui était, au dire de l'auteur, le noyau d'une mise en scène très difficile. Le poète avait très librement adapté une légende indochinoise, l'épouse injustement soupçonnée. Un enfant de 4 ans, le petit Dan, n'a encore jamais vu son père parti pour la Grande Guerre à la veille de sa naissance. Dan réclame la présence de son père. Pour consoler son enfant, Namvu allume la lampe de sa chambre. L'ombre maternelle se projette sur le mur du fond. Cette figure devient aux yeux d'un enfant de 4 ans son véritable père. Namvu, le soir j'essaie de distraire Dan. J'allume la lampe, je parle à mon ombre. Elle est le mari, moi sa femme. Dan s'amuse. Pauvre petit, c'est triste d'être orphelin. Elle appelle. Dan, Dan, Dan. Dan sautant. À cheval, à cheval. Bonjour, maman. Où est mon père ? Dame vous à part. Oh, toujours la même chose. Tu sais bien que dans la journée, ton père quitte la maison. Patiente un peu que j'allume, alors tu verras partout ton père me suivre. Ce merveilleux livret de 1922 était resté à l'abandon. Georges Auric, musicien pressenti, n'avait pas écrit une seule note. Grâce à une commande de l'Opéra de Montpellier, Valéry Stéphan a donné une belle partition à ce petit chef-d'œuvre, si longtemps orphelin de musique. Il me restait une grande difficulté à surmonter. Comment charger d'un rôle aussi décisif un enfant de 4 ans ? Voici que le Bunraku m'offre une solution. Une marionnette n'a jamais de turbulence imprévue, de trous de mémoire, d'imprécision dans son jeu. La mère du petit Dan sera, comme son fils, interprétée par une poupée. Deux montreurs, voilés de noir, Jeanne Klein et Dominique Houdard, les ont prises en main. Une même voix relie la mère de l'enfant, la mère et l'enfant. La soprano, Edwige Bourdi, chante, sur une légère différence de timbre, la partition de Dame Vu et celle du petit Dan. Voilée de noir, elle aussi, elle rejoint les deux montreurs et accompagne leurs mouvements par le chant. Il donne vie, elle donne voix. Le jeu vocal et la manipulation sont désormais rassemblés. La chanteuse et les deux marionnettistes font apparaître, par leur trio, une nouvelle forme de Bunraku. La guerre prend fin. Le soldat revient. Un chanteur, André Cognier à la création, un chanteur écrase de sa hauteur les deux poupées. Là encore, c'est un changement radical par rapport à la tradition. Dan, quel est ce monsieur ? Sin, ton père, Dan. Ton père revenu exprès pour t'embrasser. Dan, non monsieur, vous n'êtes pas mon père. Mon père ne parle jamais. Le soir, maman allume la lampe, il arrive. Il suit partout, maman dans la chambre. Si elle se lève, il se lève. Si elle marche, il marche. Si elle s'assoit, il s'assoit. Si elle se couche, signe brutalisant, assez. Je comprends maintenant pourquoi elle tremblait de nous laisser seuls. Fou de rage, l'homme chasse aussitôt son épouse injustement soupçonnée. Quand Dame Vu s'avance de lointain pour aller se jeter dans le fleuve, je peux jouer avec la forme du Bunraku qui me permet de raconter la noyade d'une manière singulière. Dame Vu s'avance, mais sa voix ne la suit plus. La soprano voilée de noir est en avance sur l'action. Elle se trouve déjà sur le bord de la rive. La marionnette avance péniblement vers son destin, vers la voix qui chante sa peur de mourir. C'est fini, je ne verrai plus ma maison, je ne verrai plus mon petit Dan, je meurs sans rien comprendre à mon crime, j'ai peur de l'eau dans la bouche. Dès que Dame Vu est au bord du fleuve, la chanteuse s'éloigne, emportant avec elle son lamento jusqu'au silence. Ainsi, sans voix, sans mots, la marionnette se jette dans le vide. Les mains du montreur se détachent lentement de celle à qui il a donné vie. L'autre marionnettiste, qui l'a relayé en prenant la poupée, accompagne sa descente lente et tournoyante vers le bas. Elle la dépose avec douceur sur le sol. Nous assistons à une mort réelle, Dame vue est devenue un bout de bois inerte. Les montreurs se retirent. L'orchestre s'arrête. Reste un grand silence dans toute la salle immobile devant cette immobilité. En 1948, Jean Cocteau, dans une lettre à Ludmila Pitoeff, lui confie son désir de voir sa petite pièce anamite interprétée par des marionnettes. Il vient de relire le livret qu'il a écrit pour des chanteurs et désormais, il l'imagine composé pour des marionnettes. Mon ami Gérard Libert, qui m'a souvent aidé en partageant tant de spectacles avec moi, a découvert ce document après la fin des représentations. Son manuscrit avait soufflé à Cocteau la solution. Un texte en sait parfois bien plus que son auteur. Cette forme de marionnette asiatique me semblait exactement correspondre à la légende indo-chinoise. J'ai pris la liberté de modifier les règles traditionnelles du Mundraku pour pouvoir répondre à la liberté de l'adaptation du poète. Cet opéra de poche, qui mêle déjà avec brio et tendresse un conte cruel et du théâtre forain, accueillait sans difficulté les poupées et se jouait avec bonheur de ces constants décalages entre des genres différents ouverts les uns aux autres. Le livret de l'épouse injustement soupçonnée m'avait toujours mystérieusement attiré. La représentation que j'en avais donnée renforçait ce mystère. « Je suis un mensonge qui dit toujours la vérité », affirmait Cocteau. « Mais quelle vérité se cacher sous cette petite pièce ?» Vers l'âge de 9 ans, je l'ai appris plus tard, le petit Jean a entreaperçu entre deux portes le cadavre de son père qui venait de se suicider. Le poète n'en a jamais parlé dans ses autres œuvres, ni dans son journal, ni dans sa correspondance. Ce secret, l'ombre du père absent, je l'ai confié sans le connaître à cette voix féminine qui chantait sous un voile de deuil « Ô mort, habille-moi de neige, donne-moi la tranquillité. » Quand donc cesserez-vous de vous identifier à la forme qui vous définit, s'indigne Gombrowicz. Aucune forme à elle seule ne peut définir le théâtre, qui ne cesse d'échapper à son identité depuis la nuit des temps. Nous allons partir dans les semaines qui viennent à la recherche de spectacles singuliers désormais effacés. Mon plus grand plaisir serait de retrouver le choc d'une surprise, le surgissement de l'émotion, comme pour la première fois, le soir où nous avons vu Orlando Furioso de Luca Ronconi, 1789-1793 d'Ariane Mouchkine et du Théâtre du Soleil, Un garçon dit au revoir à sa mère et Fire de Peter Schumann et du Bread and Puppet, Le regard du sourd de Robert Wilson, La classe morte de Tadeusz Kantor, Les aveugles de Maeterlinck dans la fantasmagorie de Denis Marlowe, L'acte inconnu de Valère Novarina, Café Muller et Barbe Bleue de Pina Bausch. Il y a 40 ans, tous ces spectacles étaient inimaginables. Si tu peux l'imaginer, tu peux le faire, dit le sculpteur Calder. Il a juste fallu un artiste, un jour, pour les imaginer. Dans les dernières minutes du dernier spectacle de Pina Bausch, les danseurs, les uns après les autres, s'avançaient vers le public en murmurant « Ne m'oubliez pas, ne m'oubliez pas, je n'oublierai pas. Je souhaite même sortir de l'oubli ce que ma mémoire a laissé sombrer. Je souhaite désoublier, selon la belle expression de Valère Novarina. » Au cours de cette première leçon, des souvenirs fragiles sont revenus, quelques instants inespérés de spectacles à jamais disparus. J'ai voulu vous les transmettre, à l'heure où la nuit tombe, comme des traces encore tremblantes d'un rêve qui ne s'est jamais entièrement évanoui. Le trop attendu, nous l'avons déjà oublié en poussant la porte de sortie. Seul l'inattendu se grave en nous. Je garde à jamais en moi les derniers vers d'Alceste de Ripide dans la traduction de Myrto Condigas. Ce que l'on attendait n'arrive pas à son terme, mais à l'inattendu, un dieu trouve passage. Permettez-moi d'arrêter mon vagabondage en vous racontant une dernière histoire. Vous l'avez compris, c'est mon métier et mon plaisir. Un jour, un homme vint trouver le directeur d'un cirque et lui demanda si par hasard, il n'avait pas besoin d'un imitateur d'oiseau. « Ah non !» répondit le directeur du cirque. Alors l'homme s'envola à tire-d'aile par la fenêtre.
La leçon inaugurale de Jacques Nichet, Le théâtre n'existe pas, le 11 mars 2010 au Collège de France. Le texte de cette leçon a été publié chez Fayard en 2011. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations liées à cette diffusion. Cette émission sera rediffusée dans le cadre des Nuits de France Culture. Grand merci à notre équipe de réalisation, Olivier Guérin et Marie Jaworski. Lundi, Jean-Louis Cohen, architecture, modernité, modernisation. Bonne fin de semaine à l'écoute de France Culture.